Merci beaucoup de cette intervention. On va disposer d'un petit peu de temps puisque notre troisième intervenant n'est pas encore là. Alors, je pense que tout le monde a été sensible à la qualité de ces deux interventions et leur clarté et qui ont bien posé les problèmes dans tout leur contexte. Et je remercie particulièrement Franck Ramus d'avoir fait un exposé pédagogiquement intéressant, parce que je crois qu'il nous a véritablement conduit assez loin. Et tout en abordant les problèmes d'un point de vue biologique, je crois que il a un peu levé des angoisses que nous avons face aux approches physiologiques des problèmes que nous rencontrons, parce qu'on sait très bien qu'une approche physiologique peut mener vers on va dire de l'eugénisme, c'est ce qui est quand même l'une des menaces que nous avons dès qu'un problème est abordé de ce point de vue-là, le déterminisme également, et l'idée, le troisième danger, c'est l'idée qu'il y aura un traitement médical qui se substituerait à toute autre prise en charge du problème rencontré. Alors, les points sans doute de discussion entre nous sont du côté peut-être des prescriptions, parce que il y a d'abord un certain nombre de points sur lesquels je veux dire que probablement la communauté enseignante a déjà pris des positions qui sont donc pas du tout, je pense, en désaccord avec ce qui a pu être dit. Peut-être aussi qu'il y a du côté des enseignants des réponses qui sont déjà constituées, qui entrent avec déjà une certaine finesse qui n'est peut-être pas connue de la part de ceux qui travaillent sur l'origine des, enfin sur les fonctionnements de la dyslexie en elle-même. Donc je crois qu'il y a aussi des échanges certainement à voir. Peut-être aussi le fait que, par exemple, du côté de la classe, quand on a détecté un certain nombre de troubles, on va peut-être pas dire troubles simplement de la relation graphophonémique, mais peut-être que on a aussi l'habitude d'entrer de façon plus fine dans l'analyse de ces troubles et se dire qu'un traitement, enfin disons qui prendrait simplement les élèves en difficulté, qui leur appliquerait, comme ça a été fait pendant assez longtemps, qui leur appliquerait finalement des mêmes méthodes à tous, comme si la nature du trouble était du déficit était identique pour tous, est aujourd'hui, je crois, quelque chose qui est un petit peu remis en question. On va vers des traitements un peu plus différenciés. De même, peut-être sur un certain nombre de propositions, par exemple en faveur, ça va être certainement discuté, en faveur des photocopies. Je trouve qu'il y a énormément de photocopies dans les classes. Hein, c'est les
problèmes de traitement différentiel.
Oui. Je pense que ça fait partie des questions. En tout cas, merci beaucoup de tous ces éclairages qui ont été faits. Je propose qu'on ait maintenant une discussion.
Je peux dire déjà un mot sur l'eugénisme, parce que
non, mais je crois que c'était vraiment bien de.
Ça a été dans tout ce genre de débat, l'eugénisme est vraiment un épouvantail.
Oui.
D'abord, c'est un argument qui est utilisé à mauvais escient pour rejeter des résultats scientifiques qui montrent des influences génétiques. La présence, la réalité ou non de ces influences génétiques ne dépend pas de l'utilisation éventuelle qu'on pourrait en faire. C'est pas parce qu'on pourrait en faire une mauvaise utilisation que les résultats sont faux. Non, les résultats sont ce qu'ils sont. Mais de toute façon, même ceci étant dit, enfin, l'eugénisme n'est pas une perspective réaliste, en fait. C'est-à-dire, même des gens qui voudraient le faire n'arriveraient pas à le faire, dans la mesure où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de déterminisme biologique dans un sens très simple, et que, en fait, les facteurs génétiques sont très nombreux et ils se présentent sous forme de facteurs de susceptibilité. Si on voulait éliminer tous les facteurs de susceptibilité à la dyslexie, on devrait éliminer toute l'humanité. Donc on agite toujours cette histoire de l'eugénisme comme un chiffon rouge. C'est vraiment un truc pour exciter les foules. Ça ne correspond à rien de réaliste, en fait.
Oui. Moi, je veux vous dire à la fois... beaucoup apprécié votre intervention en tant qu'enseignant sur la question de la dyslexie, la précision par rapport à la recherche, ce que vous avez dit sur le caractère relatif de certains résultats, en particulier ceux de Gala-Burda, je les ai découverts. Et en même temps, j'ai le sentiment que, enfin, je retiens le sentiment, la conclusion, que votre intervention contient le problème, d'une certaine manière, de la médiatisation sur le sujet de la dyslexie. J'ai le sentiment ambivalent. Mais comme c'est le sujet de cet après-midi, je réserve une intervention éventuellement sur cet aspect-là. Et pour me centrer, pour essayer d'aller un peu plus loin sur des questions, sur le fond, enfin, pas sur le fond, non, mais sur des aspects, je dirais, plus qui renvoient plus à la dyslexie. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre votre intervention et celle de Springer Charol. Hier, vous n'étiez pas là, donc je le cite, mais que j'ai interpellé aussi, sur, finalement, un propos qui ne vise à mettre principalement en évidence la voix phonologique ou la voix indirecte, les troubles de la voix indirecte concernant l'origine principale de la dyslexie. Elle a été beaucoup plus catégorique que vous dans sa conclusion. D'abord, elle a été très vite dans son exposé, et puis elle a été catégorique. Elle a dit, je ne sais pas si elle est dans la salle, c'est pour ça,
Non.
Elle n'est plus là. Oui, non, mais ce n'est pas une attaque contre elle, mais c'était pour vous resituer le propos. Éventuellement, ce n'est pas du tout une attaque personnelle, mais en gros, elle dit... Pour elle, il n'y a que l'origine de la dyslexie, ce n'est enfin, que d'origine phonologique, hein, et de caractère développemental. Enfin, je connais, maîtrise mal ces concepts. Alors, moi, je voulais vous dire, on ne retrouve plus, et de la même manière, on retrouve... Il semblerait que la commission Rengar ait un peu disparu. Les travaux, il y avait un souci d'équilibre, de prudence, dans ces travaux dont on entend... plus parler ni même faire référence sur, encore une fois, il y avait un équilibre dans le propos sur les troubles des deux voix. Et si je vous dis ça, c'est parce que je trouve que même si vous avez eu une diapo sur la voix, les troubles de la voix directe, vous êtes resté très déséquilibré. Et donc, de fait, ce déséquilibre, on le ressent. On se dit, ben, c'est principalement ça. Et ça empêche de chercher d'autres origines. Moi, on m'a indiqué, j'ai appris par hasard qu'il y avait des possibilités d'une origine auditive du trouble de la dyslexie, qui viendrait de la capacité que l'on perd à percevoir tous les sons, par exemple, à l'enfance. Voilà. On perd cette origine. Voilà. Alors, toutes ces voix, et pour conclure, parce qu'il y a une préoccupation des enseignants qui est... pas résolu aujourd'hui par la recherche, et personne n'apporte une réponse de mon point de vue, c'est comment on passe d'une priorité chez l'enfant dans la voie indirecte à une priorité vers la voie directe. Ce que vous dites, quand vous dites l'automatisation de la lecture, ben oui, mais comment ça se fait? On dit c'est un processus, en gros, on imagine c'est un processus cumulatif. Mais comment on passe d'une dominante en voie phonologique, en mémoire phonologique, je dirais, à une dominante en mémoire visuelle? C'est pas aussi simple que ça, c'est pas qu'un bon qualitatif, j'aurais tendance à penser, c'est autre chose. Voilà, donc
Alors, il y a pas mal de questions là-dedans. Donc, sur la focalisation sur le trouble de la voix phonologique, d'abord, bon, il y a un problème qui est un peu malheureux, qui est qu'on n'a qu'un mot phonologique qui est utilisé dans deux contextes un petit peu différents. Moi, j'ai parlé de la phonologie dans son sens général, celui qui vient de la linguistique, celui qui sait tout ce qui a trait au son de la parole. D'accord. Et quand je parle de déficit phonologique, je parle de déficit dans les représentations et les processus qui ont trait au son de la parole. La deuxième acception, c'est celle de la voix phonologique du système de lecture, qui, bon, évidemment, ça s'appelle phonologique pour de bonnes raisons, parce qu'il y a un côté de la voix qui est phonologique, mais qui est en fait, effectivement, une voix d'assemblage, graphème, phonème, etc. La voix phonologique du système de la lecture, c'est pas la même chose que la phonologie. Quand je dis il y a un déficit phonologique, je dis pas que dans le système de lecture, le déficit est circonscrit à la voix phonologique. Vous voyez ? Il y a ce problème d'ambiguïté des termes qui est un petit peu malheureux. Donc l'hypothèse du déficit phonologique au sens linguistique du terme, elle est largement validée sur une très grande majorité des enfants dyslexiques. Comment ça se manifeste dans le système de la lecture? Typiquement, ça se manifeste par un problème dans les deux voies, à la fois la voix indirecte et la voix directe. Mais ça encore, ça peut varier, disons, selon les enfants, et vous avez raison de souligner qu'il peut y avoir des enfants qui vont avoir des problèmes de manière prédominante dans la voie directe d'accès au lexique plutôt que dans la voie indirecte. Donc ça, c'est vrai et c'est tout à fait compatible avec l'hypothèse du déficit phonologique au sens linguistique. Il n'y a pas de contradiction. Par ailleurs, ce qui peut aussi un petit peu guider votre vision des choses, c'est le fait que c'est difficile de faire la distinction entre les dyslexiques et les mauvais lecteurs pour d'autres raisons, et qu'il y a dans les classes, il y a peut-être une prédominance de mauvais lecteurs qui, eux, ont des problèmes de mémorisation de la forme visuelle des mots, des problèmes de vocabulaire et des problèmes de compréhension. Tout cela ne sont pas les enfants que Liliane Sprenger et moi appelons dyslexiques, mais que vous voyez dans vos classes, évidemment. Donc vous avez peut-être une impression que ces troubles lexicaux et de compréhension sont prédominants. Mais bon, il se trouve que quand on parle de la dyslexie, on parle des autres. Alors après, vous aviez une dernière question, oui, sur l'hypothèse de Cerny-Classe et sur la perception de la parole. En fait, cette hypothèse auditive, qui est plutôt une hypothèse, on va dire, de perception phonétique, phonologique, c'est une variante possible ou une explication possible du déficit phonologique. Ça n'a rien de contradictoire. C'est un raffinement théorique et empirique un petit peu plus poussé que, disons, ce schéma du déficit phonologique que je vous ai proposé. Bon, et qui demande encore à être confirmé.
Moi, j'ai une question sur le continuum ou la séparation entre dyslexique et non-dyslexique.
Oui, bah,
c'est un vrai problème à la fois théorique et pratique.
C'est vrai,
vous aussi.
Dyslexique,
moi aussi.
Oui, vous voulez rajouter sur la même question
ou... Oui, c'était la même. Enfin, ce que dit Anne-Marie, c'était le début de ce que je voulais dire. Patrick Picard pour le Café Pédagogique. Merci d'avoir été le deuxième à citer le café. D'ailleurs, je voudrais proposer un thème pour le prochain colloque. Ça ne soit pas la presse, les médias et la lecture, mais le Café Pédagogique et la lecture. Donc, je reviendrai de manière singulière avec vous, Monsieur Ramus, sur ce qu'on a pu dire de ce que vous dites sur le café, mais au-delà des raccourcis, je pense que il faut différencier deux choses. Ce que vous dites et ce à quoi ce que vous dites a pu servir à un moment donné dans l'instrumentalisation politique de votre discours. Et je crois que vous êtes le premier, parce qu'on a beaucoup discuté avec vous aussi sur le café, et ce que vous avez discuté aussi avec Brissio et d'autres sur la lecture a été, ou les maths ont été très intéressants. Donc je ne vous fais pas ici l'injure de penser qu'entre ce que vous dites et ce qu'on vous fait dire, il puisse ne pas y avoir d'écart. C'est le cas de beaucoup de chercheurs. Juste pour reprendre la question d'Anne-Marie, j'ai entendu Zorman, alors ça tombe bien, il n'est pas encore là, donc je vais prendre le risque de dire une deuxième ânerie, mais je pense qu'on a tous des ectopies, c'est ça, si j'ai bien compris, donc je me mets pas en dehors du jeu. Zorman, je l'ai entendu dire, la médecine met une étiquette, à un moment de gravité, sur un continuum, et entre 0 et 100, il y a un moment où la médecine dit, on met une étiquette pour savoir de quoi on parle, dyslexie. Et Zorman, je l'ai entendu dire, c'est pas la dyslexie qui est un problème de santé publique, c'est l'échec scolaire, que l'école fasse ce qu'elle a à faire pour ses 15%, et vraisemblablement, elle ferait pas trop de bêtises pour les 4%. Je vous ai pas entendu dire quelque chose de très lointain de ça. Je voulais juste vérifier que sur cette définition-là, éventuellement, vous pourriez être en accord. Dernière chose, moi, j'ai pas de blouse blanche, j'ai une blouse grise, et donc, c'est sûr que par rapport à la qualité de votre discours, c'est difficile pour un enseignant de terrain d'argumenter. Par contre, quand j'entends vos prescriptions pédagogiques, certaines me font sourire, notamment lorsque vous parlez de l'orthographe et de la dictée. Donc je voudrais vous dire, qu'est-ce qui vous autorise, au-delà de l'immense quantité d'informations que vous nous amenez, qui sont utiles, à faire des prescriptions pédagogiques ? Et je vous dirais, par exemple, est-ce que la connaissance que vous avez du cerveau vous permet de dire quelque chose sur comment on détecte la délinquance en banlieue, comment on résout la paix sociale en banlieue ?
Bon, je vais commencer par la fin de la question. Donc, moi, personnellement, je m'autorise à faire aucune prescription pédagogique. Effectivement, je n'ai pas les compétences pour le faire. En fait, ce que je vous ai servi là, c'est les recommandations de l'expertise collective de l'INSERM, au sein de laquelle il y avait des gens plus compétents que moi sur le sujet, comme Liliane Sprenger, comme Michel Fayol et d'autres. Je reconnais que c'est pas tout à fait mon terrain. Je ne pense pas que globalement les sciences du cerveau et les neurosciences aient une application directe sur ce qu'on doit dire aux enseignants de faire dans la classe. Hein, et je l'ai déjà dit d'ailleurs. Je pense que si on veut avoir, si on veut savoir quelles sont les méthodes qui marchent plus ou qui marchent moins, eh ben on les compare directement. C'est les méthodes de la psychologie expérimentale qui sont utilisables et qui tous les outils techniques et méthodologiques sont disponibles. Mais c'est pas les connaissances des neurosciences qui vont nous aider à ça. Donc après sur la question plus de fond du seuil entre la normalité et la dyslexie, en fait c'est le même problème que, bon, je suis à peu près d'accord avec Zorman, mais ça dépend comment il formule exactement ce qu'il dit. Et là, chaque mot est vraiment très important. Mais on a le même problème un peu pour toutes les maladies. Si vous voulez, le diabète, quel est le seuil à partir duquel on définit le diabète? Ben, c'est un seuil arbitraire. En fait, c'est le taux de glycémie, il est distribué normalement au sein de la population. Il y a un seuil à partir duquel on trouve que le risque de développer vraiment une maladie qui pourrait être létale et devient trop important et qu'il faut prendre des mesures de santé publique. Et donc, on va définir le seuil à cet endroit-là. C'est pareil pour l'hypertension artérielle. Beaucoup de maladies sont situées sur un continuum et à un moment on doit définir un seuil de gravité à partir duquel il faut qu'on s'en occupe et donc on va coller une étiquette. Et donc je pense que c'est certainement en partie vrai pour la dyslexie. C'est clair qu'au niveau comportemental il y a un continuum entre la dyslexie et les autres troubles de lecture et que d'un point de vue empirique, c'est extrêmement difficile pour les enfants qui sont à la frontière du seuil, c'est extrêmement difficile de faire la distinction. Bon, sachant en plus qu'il y a différentes possibilités de critères diagnostiques, que les seuils de sévérité peuvent varier selon les formules. Donc c'est vrai que quand on est aux alentours du seuil, il y a des effets de seuil et il y a des problèmes. Le fait que ça soit sur un continuum, malgré tout, n'est pas incompatible avec quoi que ce soit de ce que j'ai dit. Considérez par exemple que le nombre d'ectopies que nous avons, en imaginant que les ectopies soient vraiment le facteur causal, ce que je ne crois pas, hein, mais prenons les ectopies comme l'exemple du facteur biologique qui pourrait être déterminant. Le nombre d'ectopies que les gens ont dans leur cerveau à travers la population, c'est quelque chose qui est distribué continuellement. La plupart en ont 2 ou 3, certains en ont 0, et puis certains en ont 50 et d'autres en ont 120. C'est distribué continuellement. Leur concentration dans les aires du langage est aussi distribuée continuellement. Et évidemment, quand on en a beaucoup dans ces aires du langage, eh ben, on a plus de risques de devenir dyslexique. Et là aussi, il y a un continuum et puis il y a un seuil à partir duquel les manifestations symptomatiques vont être tout à fait évidentes. Et puis, le problème du seuil, il peut se définir aussi bien au niveau biologique qu'au niveau cognitif, qu'au niveau comportemental. Et j'ai pas de réponse satisfaisante à ça. Ça nous pourrit la vie dans plein de maladies. Et bon, voilà, c'est comme ça. Mais ces problèmes qu'on a avec le seuil et avec le cas des enfants qui sont aux alentours du seuil ne doit pas remettre en cause la compréhension qu'on a du phénomène et le fait qu'il faut quand même agir pour ceux qui sont clairement des dyslexiques sévères.
Peut-être pour enchaîner sur la question de Patrick Picard et sur la réponse, c'est vrai que la question du seuil est pour nous une question cruciale et parce que nous la vivons, enfin en tant qu'enseignants, sur le plan comportemental, évidemment, nous ne comptons pas les ectopies dans les cerveaux de nos élèves. Mais ce seuil aussi, c'est pour nous, c'est presque un seuil psychologique, c'est-à-dire c'est quelque chose que, enfin un seuil, je veux dire psychologique au sens ordinaire du terme, c'est aussi une barre qu'on fait évoluer, qu'on place à différents endroits, selon le milieu, selon la classe et selon l'ensemble de l'environnement. Il y a un point qui avait été étudié par Ringard, qui a été cité tout à l'heure, mais dans le département dans lequel il avait exercé, et qui ce point-là va rejoindre l'intervention de Catherine Dorison, c'est la mise en place des structures spécifiques d'accueil dans les départements et l'effet de la mise en place de ces structures sur le taux de dépistage. C'est-à-dire plus on a des capacités d'accueil et de traitement pour les enfants présentant alors des troubles du langage, hein, pas spécialement la dyslexie, plus dans les classes apparaît un nombre d'enfants détectés. Il y a une sorte d'adaptation finalement de la détection empirique qui est faite dans les classes aux capacités d'accueil dans les classes. Enfin, c'était par exemple la mise en place de classes de perfectionnement. Plus à chaque fois qu'on crée une classe de perfectionnement, on génère dans la localité, dans les localités concernées, un nombre d'enfants relevant des classes de perfectionnement. Donc c'est vrai que pour nous, ça pose un problème. Le deuxième point, c'est sur la difficulté qu'il y a à décrire ce qui se passe réellement dans les classes. Nous avons énormément d'études sur ces questions, mais les variables sont extrêmement fines et la dispersion des modalités de travail est extrêmement importante. Donc c'est très difficile d'opérer des prescriptions. Je crois qu'il y a des...
Oui. Oui, pour faire la suite, on appelle ça générer le besoin en principe, hein, ce que vous venez d'évoquer. Peut-être, Annie Dorias, je suis responsable académique de la formation et outre le fait qu'on doive se présenter, je voudrais juste dire que je prends bien là le statut qui me revient, c'est-à-dire que je suis dans l'encadrement de l'éducation nationale, comme le directeur de l'INRP l'a souligné tout à l'heure. Si je prends mon statut, c'est pour vous redire, Monsieur Ramus, ce que le journaliste à ma droite vient de vous dire. Nous n'avons que des blouses grises. Vous avez une blouse blanche. Et au quotidien, quand il s'agit de travailler sur le seuil ou le cursus, le curseur, pardon, qu'il s'agit de déterminer pour savoir si on penche pour tel ou tel enfant dyslexie ou pas, c'est très important. La blouse blanche gagne trop souvent, ou du moins la collaboration entre la blouse blanche et la blouse grise serait essentielle à développer pour le bien de l'enfant. Alors quand à côté de ça, on complète par le fait qu'il suffit de générer des capacités d'accueil pour générer du besoin, eh bien évidemment, on ne peut, nous, pédagogues porteurs de blouse grise, que se revendiquer du rapport Ringard, parce que c'est tout ce qui nous reste. Voilà. Par ailleurs, la première partie de votre propos, elle nous est indispensable, non pas pour acquérir la connaissance en tant que telle, mais pour pouvoir comprendre. Et donc, vous avez très bien didactisé votre savoir, donc continuez dans ce sens-là, mais essayez de laisser aussi la spécificité, la connaissance du monde pédagogique aux pédagogues.
Alors, je vais pas répondre sur le dernier point parce que j'ai rien à dire, mais peut-être sur la question de on génère les besoins, je pense que ce que vous observez actuellement, c'est dû au fait que les capacités d'accueil spécialisées pour les enfants avec troubles du langage sont dramatiquement insuffisantes. Et donc, tant que la situation sera comme ça, évidemment, à chaque fois qu'on ouvrira des nouvelles classes, elles seront pleines tout de suite. Parce qu'il y a encore des tas d'enfants sur le carreau à côté. Le jour où tous les enfants qui ont des réels troubles du langage pourront être accueillis dans ces classes, il n'est pas évident que quand vous en ouvrez encore une, ils aient envie d'aller là-bas plutôt que de rester dans leur classe normale. Hein. Le but, c'est quand même de laisser le maximum d'enfants dans des classes normales et de ne mettre que dans des classes spécialisées que ceux qui vraiment ne peuvent pas s'intégrer temporairement dans les classes normales. Alors, il y avait un premier point sur votre question, oui, sur l'importance du seuil et bon, la blouse blanche. Sur la détermination du diagnostic de dyslexie, ouais, je regrette, je pense qu'il n'y a que les blouses blanches qui peuvent le faire. Hein. Et ils le font mal, on est d'accord. Hein. Et il y a un problème de formation, là. Les médecins ne sont pas bien formés, les psychologues, bon, les neuropsychologues, ça va, les orthophonistes, même les orthophonistes ne sont pas toutes bien formées pour faire les bilans orthophoniques et participer activement au diagnostic de dyslexie. Donc il y a des tas de problèmes du côté des blouses blanches, mais malgré tout, ça reste de leur compétence de déterminer qui est dyslexique et qui ne l'est pas. Il y aura toujours ces problèmes de seuil, ils existent de leur côté. Mais ça, disons, pour le véritable diagnostic de dyslexie, vous n'avez pas d'autre possibilité que de vous en remettre aux diagnostics officiels qui sont faits par les professionnels de santé. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas faire d'autres choses. C'est-à-dire, il y a des tas de possibilités il y a des tas de possibilités pour prendre en charge des enfants qui sont en difficulté, qu'ils aient le diagnostic officiel ou pas. Il y a des aménagements qui sont possibles. Alors moi, je connais pas toute la nomenclature des trucs dans l'éducation nationale, les PAI, etc. il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à la maison du handicap pour déjà commencer à aménager un petit peu autour d'un enfant, proposer des pédagogies un petit peu différentes, etc. Après, effectivement, il y a des troubles plus sévères qui vont nécessiter une vraie reconnaissance du handicap. Et là, vous recevez le diagnostic tel quel et vous participez à l'élaboration du projet personnalisé. Mais même avant ce stade-là et sans application de ça, il y a plein de choses qui peuvent être faites.
Oui, merci. Roland Guagou, donc c'est ni blouse grise ni blouse blanche, costume bleu là pour aujourd'hui. Enseignant-chercheur, ça veut dire que là c'est plutôt un témoignage, avant de poser une question, un témoignage, la chance d'être enseignant-chercheur, c'est qu'une partie de notre travail de recherche fait qu'on est payé pour lire le travail de recherche des autres. Et que du coup ça légitime le rôle d'intermédiaire que peuvent jouer sur des questions pareilles des gens qui sont justement à l'articulation entre recherche et formation statutairement et dans leur mission. Donc là, c'est plutôt un témoignage de formateur, mais d'un formateur enseignant-chercheur, sur la manière dont on peut porter une partie de ce qui est dit là en formation initiale ou continue des enseignants. Et il me semble qu'il y a effectivement des choses à porter, sous-entendu aussi à transposer, et je pense que c'est un des rôles des formateurs, c'est de faire ce travail de transposition. Mais il y a quand même des choses, solides et qui ont besoin d'être portées. Je prends 3-4 exemples. La première idée, c'est que lorsque on peut synthétiser et présenter un certain nombre de données comme celles que vous avez présentées, on peut commencer à ouvrir une brèche dans une tendance qu'on connaît bien dans nos milieux professionnels, qui est celle d'une psychologisation outrancière. Quand je dis psychologisation, ce n'est pas au sens cognitif, là, mais dans une vision très psycho-affective de la caractérisation des difficultés des élèves lorsque on n'identifie pas du premier coup d'œil les bonnes raisons qu'ils ont à ne pas fonctionner bien. Et bon, si bien sûr le milieu social, si bien sûr le langage, si bien sûr pose problème, alors on n'est pas étonné d'avoir des difficultés de lecture. Mais si par hasard on a des élèves qui vont bien par ailleurs et qui ont des difficultés de lecture, très souvent à l'école, quand même, il faut le dire, on avait des brèches qui s'ouvraient sur oui, mais peut-être que le rapport avec son papa est un peu conflictuel, peut-être que la fratrie, la naissance du petit dernier, etc. Et autant de choses qui peuvent avoir une part de vérité, mais qui faisaient l'économie de pousser l'ensemble des investigations et l'ensemble des sources potentielles de difficultés, et avec des perspectives de prise en charge et de remédiation adaptées à quelque chose qui était un a priori. Donc quand même, il faut le... Enfin, moi, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut pointer, parce que dans les formations, ça permet de replacer et de remettre des choses à leur place. Donc ça, c'est le premier point, moi, sur lequel j'insiste quand je suis formateur. Le deuxième, c'est effectivement d'insister sur ce qui a été évoqué précédemment, c'est-à-dire une certaine similitude, un certain degré de parenté et un continuum qui nous permet de penser d'une manière voisine des enfants qui sont en difficulté avec des enfants qui sont dans le trouble ou dans une pathologie, du moins dans les premières étapes et dans ce que le maître a entre les mains comme moyen d'action. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, savoir s'il est dyslexique ou pas dyslexique quand le maître constate des difficultés dans les traitements phonologiques, c'est une question qui est vraiment secondaire. Ce qui est important, c'est de repérer l'importance des traitements phonologiques et d'avoir, pour tous, et en particulier pour les plus fragiles, en grande section en particulier et en continuant au-delà, un travail systématique, explicite sur les aspects phonologiques. Ça a donné chez nous du travail de création d'outils dans ce sens-là, avec Fono et d'autres. Mais de ce point de vue-là, moi, j'ai pas de problème en formation entre les apports de type médicaux ou génétiques, avec tout l'exposé que vous venez de faire, et une perspective d'intervention qui est une perspective où on va mettre plus en avant le continuum que le diagnostic, avec les précautions que vous avez apportées à juste titre sur le fait que c'est pas le rôle des enseignants de poser ce diagnostic et de dépister, mais bien de s'interroger sur la difficulté. Le troisième point qui me paraît intéressant, c'est quand même les bénéfices qu'on peut tirer des entraînements qui ont été tentés. Parce que quand même, il n'y a pas que de la description des phénomènes, il y a eu quand même, du côté des travaux sur la dyslexie, des interventions. Alors, dans des cadres qui sont des cadres rééducatifs et qui sont assez rarement des cadres d'intervention ordinaire en pédagogie. N'empêche que quand on regarde les cadres rééducatifs, on a aussi des cibles, des modalités de travail qui, au prix d'un certain nombre de transpositions, peuvent donner du grain à moudre à l'école. Il me semble que c'est aussi notre boulot de faire ce travail-là pour tirer le meilleur de ce qui a pu montrer une certaine efficience dans l'intervention. Et pas seulement dans le diagnostic. Il y a à lire de ce côté-là aussi, et il y a à capitaliser de ce côté-là, y compris pour arriver sur des choses contre-intuitives, qui sont des choses du type plus d'enseignement sur les relations écrites-orales, là où, très souvent, les maîtres ont plutôt tendance à penser que, puisque ça coince, il faut faire un détour, aller ailleurs, trouver d'autres modalités. Et donc, le plus, il est intéressant, mais évidemment, là, il est à didactiser complètement, parce que c'est notamment un plus qui peut aller vers plus, mais pas de la même manière que ce qui est donné dans le collectif, mais avec d'autres modalités. Et là aussi, les pédagogues et les didacticiens ont plein d'idées à partir du moment où on réouvre la légitimité de ce plus d'intervention, de ce plus intensif. Et notamment parce qu'ils ont des habitudes de travailler beaucoup plus avec l'écriture que ne le font certains rééducateurs, et qui vont, par le biais du passage de l'écrit vers l'oral, remettre en place des choses qui marchaient moins bien, du l'oral vers l'écrit, etc., etc. Donc là, il me semble qu'il y a aussi des encouragements à l'action qui peuvent être retirés de ce genre de travaux. Et puis, et j'arrive là, ça c'est la fin de mon témoignage, c'est juste pour dire, voilà comment moi j'essaye de traiter comme formateur un certain nombre de ces données-là. Si, au passage, avec la question des aménagements. Parce que là, la question des aménagements dans l'INSERM, moi, aucun problème avec cette perspective-là, parce que justement, la double peine, c'est un des thèmes sur lequel on travaille beaucoup, la double peine juridique de un coup en prison et après on est expulsé, mais ici, c'est une vraie double peine pédagogique. C'est un, vous êtes en difficulté sur la lecture, et deux, en plus, on vous fait payer le prix sur l'ensemble des autres activités. Mais cette réflexion sur la double peine didactique ou les aménagements, c'est la même lorsqu'on pose à tous les élèves un questionnaire de compréhension de la lecture, et qu'on ne met pas 20 sur 20 lorsque les réponses sont exactes, parce qu'on commence à pondérer sur la qualité de la langue, l'orthographe ou la syntaxe des questions apportées, alors même que si les élèves ne sont pas au clair sur le fait que ce qu'on évalue, c'est la qualité de la compréhension de leur texte, alors ils vont se mettre à sous-fonctionner en rédigeant des réponses qui sont moins bonnes que celles qu'ils donneraient en raisonnant et oralement, tout simplement pour éviter les difficultés orthographiques, et notamment en allant chercher dans le texte les mots qui vont recopier pour minimiser les risques. C'est dire si cette question-là des aménagements, elle prend une tournure extrême sur les pathologies, et moi je trouve que dans l'éducation spécialisée, c'est toujours ça que l'histoire nous a appris, c'est que les situations extrêmes nous aident aussi à re-raisonner des situations ordinaires dans des processus d'aménagement et de transformation et de transposition. Donc là, c'était le dernier exemple sur, oui, une logique d'aménagement qui, à mon avis, est au cœur d'une réflexion pédagogique contemporaine. Et puis, le dernier point, et ça, c'est une vraie question, c'est en réponse à ce que disait Quintard tout à l'heure. Moi, j'ai envie de dire, voilà la réponse que j'apporte, mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne et je veux bien votre avis. Sur comment ça s'automatise les procédures d'identification des mots. Dans le discours un peu convenu de nos centres de formation, c'est comme s'il y avait deux voix, une voix indirecte, graphophono, puis une voix directe qui serait d'entrée de jeu orthographique, sous prétexte qu'on voit bien qu'il y a un certain nombre de mots, et notamment de mots-outils extrêmement fréquents, de prénoms, de mots vedettes, qui peuvent être mémorisés très tôt, avant même que les enfants n'aient les possibilités d'en faire l'analyse graphophonologique. Et à partir de ce constat de départ, on fait comme s'il y avait deux voix qui continuaient, je dirais, à se développer en parallèle. Or, moi, ce que je dis à mes stagiaires, c'est pas ça. C'est que c'est essentiellement l'automatisation des procédures de décodage graphophonologique qui rend de moins en moins nécessaire la segmentation syllabique, les conversions et autres, et qui fait que en réitérant des actes de déchiffrage réussis, on s'en émancipe, mais plutôt en pensant à un continuum à partir de ces procédures-là vers une automatisation qui permet, par un apprentissage implicite de reconnaître des patterns orthographiques, les associer aux bonnes configurations phonologiques et obtenir donc une identification du mot, mais que c'est plus ce processus-là qui conduit à la lecture experte sur une voie directe généralisée qu'un double chemin où il y aurait une augmentation du nombre de mots qui, indépendamment du déchiffrage, seraient mémorisés. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, c'est comme ça que je présente les choses en formation, ce qui a des conséquences didactiques là que je ne développe pas, mais en tout cas sur le modèle implicite sous-jacent, c'est comme ça en gros que je le résume. Est-ce que ça vous paraît raisonnable comme approximation? Qu'est-ce que peut en dire la neuropsychologie, quoi?
Je veux dire, c'est possible, mais en fait, je ne le sais pas et je ne sais pas si on le sait. Je ne suis pas sûr, en fait. Disons, ce qui paraît incontestable, c'est que la voie lexicale, la voie directe, disons, le facteur déterminant pour qu'elle se monte, c'est l'exposition aux mots. Ça n'est que la lecture répétée des mêmes mots présentés fréquemment qui va augmenter la probabilité qu'ils soient mémorisés tels quels dans le lexique. Après, exactement par quel mécanisme ça se produit, je suis pas sûr qu'on le sache. Simplement, votre hypothèse à vous, je veux dire, elle me paraît compatible avec, par exemple, l'idée qu'a Stanislas Dehaene, qui est basée sur l'imagerie cérébrale, qui est que, en fait, il y a toute une hiérarchie de représentation des lettres et des séquences de lettres jusqu'aux mots dans le cortex visuel, qui, donc, si vous voulez, au niveau de représentation le plus primaire, il y a des détecteurs de traits, traits verticaux, obliques, horizontaux, etc. Puis à un niveau un peu plus élevé, il y a des détecteurs de lettres qui sont encore un petit peu sensibles aux caractéristiques superficielles telles que la casse, la police, etc. Et puis un petit peu plus élevé, il y a des détecteurs un petit peu plus abstraits qui reconnaissent la forme de la lettre indépendamment des caractéristiques superficielles. Et puis il y a des détecteurs de bigrammes, donc des paires de lettres, puis de trigrammes, etc. Et puis à un niveau un petit peu plus élevé, à force de voir toujours ces mêmes unités, eh ben on doit arriver à avoir des représentations qui sont encore plus abstraites et qui doivent encoder des morphèmes entiers et voir des mots. Donc, lui, il a ce modèle-là qui est tout à fait plausible et bon, il y a des données empiriques assez suggestives dans ce sens-là. En tant que description du système de lecture de l'adulte, il y a tous ces niveaux de représentation qui coexistent en fait chez l'adulte. Et donc, c'est pas une mauvaise hypothèse de penser qu'effectivement, ils se forment successivement les uns sur les autres. Mais je ne connais pas non plus de preuves directes de ça.
Bonjour, moi, je suis professeur des écoles spécialisée. Et c'était aussi pour apporter un témoignage, en fait, surtout en réaction aux interventions qui m'ont précédé. Je travaille avec 12 enfants porteurs de troubles du langage oral et écrit. Donc je suis dans une classe à dominante, troubles du langage oral et écrit. Je voulais dire que les conseils prodigués, même si c'est par des blouses blanches, quand j'ai démarré à 5 ans, m'ont été salutaires. Donc même si ça peut paraître aller de soi quand on commence, c'est quand même bien, bien nécessaire de les avoir. Et quand je transmets ce genre de conseils à mes collègues, ou à d'autres personnes qui accueillent aussi des enfants dyslexiques, eh ben, ils sont toujours contents et preneurs. Donc il me semble que ça ne va pas complètement de soi. D'autre part, je voulais aussi dire que les élèves qui sont accueillis dans ma classe ont tous été diagnostiqués, non pas par des enseignants, non pas par des orthophonistes libéraux, mais par des centres de référence qui ont des équipes spécialisées et très complètes et qui ont été capables de diagnostiquer précisément le trouble de mes élèves. Voilà. Et puis j'avais une question aussi. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit que j'allais accueillir des élèves dysphasiques. On parle beaucoup d'élèves dysphasiques. Et je vois que dans le rapport de l'INSERM, on parle de dyslexie, dysorthographie et de dyscalculie. Moi, quand j'ai les bilans, on me parle d'enfants dysphasiques et dyslexiques, et généralement dysorthographiques et dyscalculiques aussi. Et je voulais savoir qu'en est-il actuellement des recherches sur la dysphasie. Est-ce qu'on n'en parle plus? Est-ce qu'on parle juste de dyslexie? Voilà. Merci.
Donc, ouais, il y a deux choses. Bon, la dysphasie ne faisait pas partie du cahier des charges du rapport de l'INSERM, qui était spécial, enfin, qui devait se focaliser sur les troubles des apprentissages scolaires. Or, le langage oral, ça n'est pas un apprentissage scolaire, ça précède les apprentissages scolaires. C'est pour ça que ça en a été exclu d'emblée, alors qu'effectivement, d'un point de vue cognitif et biologique, c'est extrêmement relié. Et bon, du coup, c'était un petit peu bancal comme présentation, mais bon, voilà, c'était les règles de l'exercice. Donc, la dysphasie, ça existe toujours, et c'est toujours aussi associé à la dyslexie et à la dysorthographie. Simplement, c'est un terme qu'on va considérer comme... Enfin, normalement, on ne devrait plus utiliser. Voilà, ça devient un petit peu inusité. Maintenant, on parle de troubles du langage oral, troubles spécifiques du langage oral, s'il est vraiment spécifique. Et ce qu'on appelait les dysphasies, ça correspondait aux formes les plus sévères, en fait, de troubles du langage oral. Donc voilà, mais on a toujours cette... Donc voilà, ça me permet d'aborder un point que j'ai pas vraiment abordé, qui est qu'en fait, il n'y a pas que la dyslexie dans la vie, c'est tout un ensemble de troubles spécifiques des apprentissages qui se présentent souvent en constellation, qui sont souvent associés les uns avec les autres, sans pour autant provoquer un déficit intellectuel. Donc ça reste des troubles spécifiques, mais ils sont souvent en compagnie les uns des autres. Effectivement, il y a bon, cette... Disons, les troubles du langage oral, vous l'avez compris, ce sont des facteurs de risque majeurs pour l'acquisition du langage écrit, bien que ça soit pas totalement systématique. Et on voit dans nos études aussi des enfants qui ont des troubles du langage oral sans répondre aux critères de la dyslexie. Ça arrive, mais c'est relativement rare. De même qu'il y a des enfants qui sont dysorthographiques sans avoir été dyslexiques. Il y a des dissociations un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que la règle, c'est souvent dyslexie, dysorthographie ensemble. Et si on a trouble du langage oral, alors ça entraîne le trouble du langage écrit. La dyscalculie, ça reste un petit peu plus compliqué. Et si vous regardez le chapitre qui concerne la dyscalculie dans le rapport de l'INSERM, vous allez mesurer l'étendue de notre ignorance. C'est un terme qui peut être utilisé à tort, mais vous allez me dire, comme tout, la dyslexie aussi, on l'utilise beaucoup à tort. Donc le problème qui se pose souvent, c'est que les enfants dyslexiques ont des problèmes d'arithmétique en surface, parce qu'ils ont des problèmes de mémoire verbale à court terme, donc ils ont du mal à apprendre par cœur les tables de multiplication, et ils ont du mal à faire du calcul mental où il faut garder toutes les données du problème en mémoire. Et donc ça donne une impression de dyscalculie, alors qu'en fait la dyscalculie c'est quelque chose d'un peu différent, qui est plus fondamental, qui n'a pas trait qu'au calcul mental et aux tables de multiplication, et qui est plus un déficit fondamental de la compréhension du nombre, de la numération et des quantités. Et donc si c'était vraiment le problème, c'est que bon, on est encore en train de lutter pour comprendre ce que c'est que la dyscalculie, qu'est-ce qu'il faudrait avoir comme critère diagnostique, donc on ne peut pas non plus protester que le diagnostic est mal utilisé. Mais donc, c'est pas certain que tous les enfants que vous voyez qui sont étiquetés dyscalculiques le soient vraiment. Peut-être ils sont juste dyslexiques et ils ont des difficultés transitoires en arithmétique à cause de ces problèmes de mémoire verbale à court terme. Et après, si vous leur faites faire de la géométrie ou si vous développez des compétences mathématiques un peu plus élaborées, ils peuvent être tout à fait excellents, en fait.
Peut-être pour prolonger ce qui vient d'être dit, moi j'enverrai à l'ouvrage de Catherine Tourette sur le handicap. Elle étudie le handicap et non pas les déficits ou les déficiences, c'est-à-dire comment un trouble a des répercussions sur le comportement scolaire et social. Et ce qu'elle montre, c'est que lorsqu'on parle de handicap, la plupart du temps, il s'agit de polyhandicap, c'est-à-dire qu'un premier handicap qui peut être identifié dans une zone comportementale, disons, a nécessairement des effets sur une autre zone. C'est-à-dire que ce qui a été montré à propos de ce que Roland Guagou appelait la double peine, c'est-à-dire aussi un élève qui a des difficultés, vous en avez parlé aussi, dans un domaine, aura des difficultés dans un autre. Donc lorsque nous sommes avec des élèves dans les classes, c'est vrai que nous, ce que nous constatons, je dirais, c'est peut-être des polydifficultés, et la tentation est forte de les ramener à une difficulté, à une source unique, alors qu'il y a certainement des réseaux entre ces différentes difficultés, et nous n'avons pas les moyens d'identifier la cause initiale.
Moi, je voudrais... Alors, Geneviève Maroubi, je suis maître de conférence à l'UFM de Créteil. Je voudrais un petit peu témoigner, parce que j'ai un parcours un peu particulier. Je suis à la fois psychologue et je suis orthophoniste. Je suis venue travailler comme maître de conférence dans les IUFM parce que j'ai vécu, on va dire, depuis les années 70, toutes les batailles, toutes les oppositions, toutes les contradictions, toutes les oukases, je dirais, des uns et des autres dans ce domaine. Et je trouvais qu'au cœur de tous ces débats, il y avait surtout l'enfant, et que souvent, toutes ces réflexions, en fait, se passaient entre pédagogues, chercheurs, médecins, orthophonistes, et qu'on oubliait le centre de ces débats, c'est-à-dire l'enfant. Et je dois dire que depuis que je suis à l'IUFM, alors d'abord de Reims, puis de Créteil, je rencontre des étudiants, des enseignants en formation continue, qui finalement sont heureux, je crois, que l'on puisse leur apporter ce qu'a fait brillamment Franck ce matin. Les apports de la science au fur et à mesure des découvertes de celle-ci dans ce domaine particulier. Je remarque que Franck, quand il répond aux questions qui lui sont posées par M. Guagou, dont j'ai apprécié l'intervention également, répond tout à fait en conscience de ce qu'il connaît de l'état actuel des recherches et ne donne pas des réponses arbitraires, il faut faire ci, il faut faire ça. Il dit « je sais ce que la science peut apporter et ce qu'elle ne peut pas dire ». Et je dois dire que, heureusement, depuis quelques années, je sens parmi les enseignants que je rencontre une évolution positive qui n'est plus dans l'attitude, qui n'est plus une attitude de rejet des apports des autres, mais au contraire, l'acceptation de ce que les uns et les autres peuvent dire de leur propre point de vue pour bâtir autour des difficultés de l'enfant des réponses de plus en plus adéquates.
Merci. André Ouzoulias, IUFM de Versailles. Merci pour cet exposé extrêmement clair. Est-ce que, c'est une question qui s'adresse aux chercheurs en neuropsycho, est-ce que la distinction entre dyslexie morphémique et dyslexie phonologique, ou qu'on appelait aussi dyslexie de surface et dyslexie profonde, reste une distinction pertinente aujourd'hui, ou a-t-elle été largement relativisée par les travaux sur à la fois le rôle de la phonologie et peut-être sur le rôle des troubles visio-attentionnels qui pourraient peut-être expliquer, et ça c'est une question que je vous pose, un certain nombre de traits liés à la dyslexie habituellement classée comme morphémique. Deuxième question qui est liée à cela, la morphologie, la phonologie, la transparence et l'opacité, on sait bien, pour ceux qui connaissent les chiffres liés sur la prévalence de la dyslexie dans les différentes sociétés, que la dyslexie est beaucoup plus importante en termes de pourcentage d'enfants qui sont diagnostiqués dans des sociétés comme celles qui utilisent l'anglais, moins à l'autre bout dans des sociétés qui utilisent des langues alphabétiques dont l'écriture est transparente, enfin des langues dont l'écriture alphabétique est totalement transparente. Je pense à l'italien, au finnois, etc. Est-ce que là encore, c'est pas un motif de relativisation du rôle de la graphophonologie, de la phonologie dans la construction des compétences, dans l'identification des mots? Ça m'amène aussi à un troisième point qui est un certain nombre de travaux tout récents, et je pense notamment, ça peut paraître étrange pour ceux qui me connaissent de citer ces travaux-là, mais à ceux de Springer-Charolles sur la rééducation de collégiens, où l'on passe par un travail intensif et systématique sur la morphologie pour les amener à pouvoir identifier les mots et les décomposer de manière plus aisée que si on en reste à des entraînements systématiques sur les graphèmes et les morphèmes et les phonèmes, pardon. Et donc là, on a une perspective intéressante du point de vue de la rééducation. Est-ce que cette perspective du côté de la rééducation ne pourrait pas ouvrir aussi des voies du côté de l'apprentissage ? Enfin, dernière question. Est-ce que ça en fait beaucoup ? Est-ce qu'on est autorisé à parler de dyslexie dans des langues, je pense par exemple au chinois et au japonais, qui n'utilisent pas le code alphabétique, c'est-à-dire où les sujets pour lire, pour apprendre à lire, n'ont pas besoin de développer une conscience phonologique jusqu'au phonème, jusqu'à la manipulation intentionnelle des phonèmes. Si c'était le cas, s'il y avait une dyslexie aussi dans ces sociétés-là, de quelle forme est-elle, comment se manifeste-t-elle, est-ce qu'on a aussi des travaux récents là-dessus? Merci.
Bon, alors, première question, dyslexie phonologique contre dyslexie de surface. Donc ça fait référence aux deux voies du modèle de lecture, donc et ça fait référence en fait à des pathologies acquises par lésions cérébrales qui peuvent toucher spécifiquement une voie ou l'autre, donc avec des patients qui peuvent reconnaître des mots connus mais qui peuvent pas lire des pseudomots ou vice versa. Ça a été utilisé dans la dyslexie et ça l'est toujours, dans le sens où ça peut incontestablement permettre d'établir un profil de compétences et de quantifier simplement le fait que chez cet enfant, la voie phonologique a l'air plus ou moins atteinte et la voie directe a l'air plus ou moins atteinte. Donc en tant que description de l'état du système de la lecture, ça reste une description valide. Simplement, quand ça avait été proposé initialement, l'espoir était que ça correspondrait à aussi des sous-types distincts qui aurait peut-être des bases biologiques différentes, enfin qui conduirait à des types de rééducation différents, par exemple. Et ça, cette attente, elle a pas été récompensée. Il semble maintenant que ce qu'on appelle dyslexie phonologique et dyslexie de surface, ça correspond pas à deux types fondamentalement différents de dyslexie. Donc, par exemple, on avait l'espoir que ce qu'on appelait la dyslexie phonologique correspondrait à un vrai déficit phonologique au sens linguistique, alors que la dyslexie de surface correspondrait peut-être plus à des troubles visuels. Mais ça, c'était de toute évidence trop simpliste. J'ai expliqué tout à l'heure comment le même déficit phonologique au sens linguistique va engendrer des difficultés à la fois dans la voie phonologique de lecture et dans la voie directe. Et quelqu'un comme Sylviane Valdois pourrait vous expliquer comment un trouble visuo-attentionnel peut lui aussi engendrer des difficultés dans les deux voies. Donc, le fait d'observer un profil plus phonologique ou plus de surface chez un enfant, sachant que la plupart des enfants, de toute façon, ont des problèmes dans les deux voies, ne conduit pas à, disons, formuler une hypothèse plus précise sur l'origine du trouble. Donc je suis plutôt contre l'utilisation, disons, forcenée de cette typologie, à part pour faire juste vraiment un état des lieux descriptif de l'état de fonctionnement du système de lecture. Alors, ensuite, la question des variations de la dyslexie à travers les différentes langues. L'impact de la transparence de l'orthographe, donc la régularité des correspondances graphème-phonème et phonème-graphème, il se vérifie sur l'apprentissage de la lecture en général. Et il affecte tous les enfants. On peut en voir l'impact, par exemple, dans les études comparatives internationales qui montrent que les enfants qui apprennent à lire dans les langues les plus régulières, en gros, apprennent à lire en un an, alors que les Français, les Danois et les Anglais traînent encore pendant des années à essayer d'acquérir tous les éléments de la lecture. Et donc, cet impact qui est général sur l'apprentissage de la lecture, il est en particulier, il se manifeste en particulier pour les enfants dyslexiques qui ont en plus des troubles et qui vont avoir des difficultés particulières. Et donc là, disons, c'est un facteur, donc cette régularité de l'orthographe, c'est un facteur environnemental qui permet de montrer cette interaction entre les prédispositions biologiques et ce qu'en font les facteurs environnementaux. Hein, au sens biologique du terme, les Italiens et les Finnois ont à peu près les mêmes prédispositions à la dyslexie que les Français. Mais l'environnement va moduler les symptômes à la hausse ou à la baisse en fonction de la difficulté de la tâche à laquelle l'enfant est exposé. J'ai pas bien compris si cette variation en fonction de la régularité de l'orthographe était proposée comme une espèce de remise en cause de la théorie, mais je vois pas vraiment en quoi ça fait partie disons du tableau que j'ai exposé. Ça remet pas particulièrement en cause les explications sur les déficits.
Les dernières statistiques que j'ai vues sur le nombre de dyslexiques en Finlande, la chose qui m'a surprise, c'est qu'ils étaient aussi nombreux qu'en France. Enfin, que les 3 entre 6, c'était 5%.
Ouais.
Et je me suis dit, est-ce que c'est un problème de fixation de seuil ou est-ce que c'est un problème que ça n'a pas d'importance par rapport à la langue? Bon, voilà.
Ouais, bon, je vois pas exactement à quelle étude vous faites référence. Oui, il faudrait regarder très précisément les critères diagnostiques, les seuils, parce que c'est crucial, hein, évidemment. Moi, je connais bien une étude qui a comparé la prévalence de la dyslexie aux États-Unis et en Italie en utilisant les mêmes ensembles de critères diagnostiques, donc vraiment en faisant quelque chose de comparable. Ils ont même essayé plusieurs critères diagnostiques avec ou sans décalage avec le QI, etc. Bon, en gros, leur résultat principal, c'était que quel que soit le critère qu'on utilisait, il y avait clairement une différence de prévalence entre les États-Unis et l'Italie. Et en gros, c'était 7% aux États-Unis, 3% en Italie. Donc voilà, c'est la seule étude, disons, bien faite et contrôlée que je connais qui permette de le quantifier un peu comme ça. Pour la Finlande, je saurais pas dire. Effectivement, on s'attend à ce que, si on appliquait les mêmes critères diagnostiques qu'en France, la prévalence devrait être plus faible en Finlande qu'ailleurs. Mais en tout cas, dans les comparaisons internationales, bon, qui ciblent pas particulièrement la dyslexie, mais qui regardent l'avancement de l'apprentissage de la lecture chez les enfants, les Finlandais sont clairement en tête. Hein. Alors après, qu'est-ce qui se passe dans les langues non alphabétiques? En fait, il y a aussi la dyslexie. Donc, même s'il n'y a pas d'unité telle que la lettre ou le phonème en chinois, il y a malgré tout... d'abord, le problème fondamental reste le même. Il s'agit d'apparier des symboles visuels à des symboles phonologiques. Donc, s'il y a un problème dans les associations de ces deux représentations, ça peut aussi effectivement se manifester comme une dyslexie. On pourrait faire la prédiction que peut-être comme les idéogrammes chinois sont visuellement plus compliqués que les lettres et que ça pose un problème différent au système visuel et moindre au système phonologique, il y aurait une plus grande proportion de dyslexiques visuels et une moindre proportion de dyslexiques phonologiques en Chine. Je pense que les données qui pourraient tester cette hypothèse sont pas encore vraiment là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les collègues chinois trouvent aussi des déficits phonologiques au sens linguistique du terme parmi leurs dyslexiques chinois, en moyenne. Est-ce que c'est la même proportion ou pas? On le sait pas vraiment. On peut raconter également le cas qui a été documenté dans la littérature d'un enfant bilingue anglais-japonais qui était dyslexique en anglais et pas en japonais. Hein, sachant que le japonais, bon, c'est un système syllabique qui est extrêmement régulier, extrêmement facile à apprendre. Enfin, ils ont 3 systèmes d'écriture, mais il y a celui-là qui est extrêmement facile à apprendre. Et donc, il avait beau être sévèrement dyslexique en anglais, l'enfant, et donc dyslexique dans un sens des prédispositions, la tâche d'apprentissage des kanas en japonais était suffisamment facile et régulière pour que ça ne lui pose pas de problème particulier. Donc, on voit comment les mêmes potentialités biologiques vont s'exprimer dans un contexte et pas dans un autre. Voilà. Et donc la dernière question, c'était sur les rééducations et l'opportunité de se centrer éventuellement sur d'autres unités que le phonème, par exemple les morphèmes. Sans aucun doute. Hein. Enfin, je pense qu'il y a d'autres gens comme Gombert et Collet qui le disent depuis longtemps. On est tous persuadés que ça sert aussi. A fortiori pour la cohorte de Liliane Springer-Charol, ou ce sont des collégiens avec lesquels, bon, c'est bon, on a déjà tout essayé, ça fait déjà des années qu'ils font de la rééducation orthophonique et qu'ils ont les graphèmes phonèmes, s'ils les ont pas appris à cet âge-là, ils les apprendront jamais. Donc il faut, et en fait, là, on arrive, disons, un peu un point fondamental qui est quelles sont les stratégies qu'on peut utiliser avec des enfants qui ont un trouble spécifique. Et en gros, il y en a deux. Et elles sont pas exclusives l'une de l'autre. Il y en a une, c'est super entraîner la fonction déficitaire. Et ça marche jusqu'à un certain point. Et l'autre, c'est contourner le déficit, utiliser les fonctions cognitives qui sont préservées pour contourner et enseigner à l'enfant à parvenir au même but en utilisant un chemin différent. Et je pense que typiquement, les bonnes orthophonistes utilisent les deux voies à la fois parce qu'il n'y en a pas une qui va gagner sur l'autre. On ne sait pas à l'avance si jusqu'à quel point l'entraînement de la fonction déficitaire va marcher. Et donc, il faut essayer les deux en parallèle, typiquement, et réévaluer. Et quand il y a eu une approche qui ne marche pas, que ça soit une approche d'entraînement ou une approche de contournement, eh ben, il faut réévaluer et essayer autre chose, hein, typiquement.